Bonjour à toutes et à tous. On va ouvrir aujourd'hui une nouvelle page musicale avec une chanteuse et un guitariste. Il s'agit de Valérie Felet et Alain Wirtner qui sont présents avec moi aujourd'hui. On va parler donc de leur groupe qui s'appelle Hirsute. Valérie, depuis combien de temps ce groupe existe ?
Les premières compositions, 1998-1999.
Et Alain, vous avez pris le train en marche, on dira un petit peu plus tard, en 2001, je crois.
Tout à fait. Après le premier album, bon, je crois qu'on a commencé à répéter ensemble et puis à prévoir d'autres albums et d'autres trajectoires pour ce projet.
Juste pour situer, est-ce que vous avez un style musical de prédilection dans Hirsute ?
Non. Je crois que c'est complètement hétéroclite de chacun des albums. Enfin, rien ne ressemble à rien. Des fois, c'est en français, des fois en anglais. Moi, je me laisse en tout cas une liberté totale. Alors, ça dépend de comment je suis, ça dépend de plein de choses, mais je ne mets pas de barrière.
On va maintenant parler des sources de vos envies musicales, on dira. Dans votre enfance, je vais vous poser la question aux deux alternativement. Dans votre enfance, qu'est-ce qui vous a donné le goût pour la musique ?
Alors, moi, j'avais deux grands frères et sœurs, on est quatre enfants, qui écoutaient beaucoup de musique. Ma grande sœur, elle chantait aussi, et mon grand frère, assez rapidement, a monté un groupe quand il avait 16 ans. Donc, à ce moment-là, moi, j'en avais 12. Et puis, ils répétaient régulièrement, donc moi, j'allais les voir en répétition. Et puis, tout à coup, j'ai eu envie de chanter. Enfin, l'adolescence, c'était une période un peu difficile, donc... C'était un peu mon échappatoire. J'ai aussi des parents qui sont... J'ai eu un papa qui fait du tambour, qui est instructeur de tambour, enfin qui était. Et ma maman qui chantait dans une chorale. Donc un peu tout ça mélangé nous a tous donné le goût de la musique parce qu'on fait tous de la musique, les quatre.
Très bien. Alain ?
Alors moi, c'est un parcours plus classique. Je viens d'une famille où, à l'époque, les filles jouaient du piano et les garçons du violon. Donc... Vu que j'étais garçon, on m'a mis un violon dans les mains quand j'étais petit. Et puis après, un peu comme Valérie, j'ai rencontré aussi des amis au cycle d'orientation où tout d'un coup l'envie de monter un groupe de musique un peu plus rock s'est présentée. Et puis, comme toujours dans ces rencontres, il y en a un qui dit « moi je suis guitariste », un autre qui dit « je fais de la batterie », et puis après il faut trouver un bassiste, c'est toujours plus difficile. Mais on a réussi à convaincre un ami de se mettre à la basse, et puis c'est comme ça que c'est parti.
À l'époque, vous preniez déjà les cours ou c'était en autodidacte ?
Alors moi, j'ai commencé en autodidacte avec justement un ou deux copains qui savaient déjà jouer un peu, qui m'ont montré les premières bases. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'école de musique actuelle et de prof de guitare comme maintenant. Donc, on m'a présenté un jeune musicien qui s'appelait Franco Rötlisberg, qui lui était vraiment féru de jazz. Donc, ça a été une rencontre assez particulière parce que moi, je n'étais pas du tout... attiré de prime abord par ce style, et puis lui, il me disait je t'apprends ça ou rien, donc j'ai choisi d'y aller, puis en fait ça a été
déjà guitare électrique.
Déjà guitare électrique, ouais, tout à fait.
Vous avez les deux une formation musicale professionnelle, on dira. Valérie, qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, j'ai fait l'école de jazz et de musique actuelle à Lausanne. Mais c'est vrai que j'ai commencé les cours pour répondre à la question de tout à l'heure assez tard, en fait, les cours de chant à 16 ans. Avant, je faisais du piano et puis ça ne me convenait pas tellement. Et puis donc j'ai commencé à 16 ans à Lausanne et puis ça a duré plein de temps. Et puis j'ai aussi fait 2 ans de classique ici au conservatoire.
Alain, de votre côté, vous avez fait une partie de vos études musicales à Berne, je crois.
Tout à fait.
Et ensuite, une année à Los Angeles. Pourquoi ce choix aux États-Unis ? Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors, c'est de nouveau un hasard de la vie qui fait que j'ai rencontré un collègue neuchâtelois qui est devenu un très bon ami à moi, guitariste aussi, à Berne, justement, on était dans la même école. Puis on a commencé à bosser ensemble, j'allais un jour par semaine chez lui, on a fait ça pendant 2 ans, puis on écoutait de la musique effectivement qui venait plutôt des États-Unis parce que voilà, les grands noms du jazz venaient de là-bas. Et puis petit à petit on a monté ce rêve, on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles qui étaient assez prestigieuses de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis on a monté ce projet, on a trouvé les moyens de pouvoir le concrétiser, et puis on est parti là-bas comme les deux petits Suisses, la fleur au fusil. Puis Puis c'était une expérience assez incroyable.
Qu'est-ce que ça vous a apporté que ça, de plus que, qu'une école en Suisse, une vision différente, un type de musique différent?
Alors, on n'a pas choisi dans le petit, en fait. On a débarqué à Los Angeles, et puis un quartier qui s'appelle Hollywood, qui est vraiment... où là, on croise des jeunes comme nous à l'époque qui voulaient soit percer dans le cinéma, soit dans la musique. Donc ça a été déjà un grand choc, parce que c'est vrai qu'on était des milliers avec le même rêve américain. Et puis aussi une angoisse de dire, mais est-ce qu'on sera au niveau? Est-ce que nous, venant d'un petit pays comme la Suisse, est-ce qu'on arrivera à relever le défi? Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mal que ça. Et puis que, voilà, on a pu tirer notre petit parcours dans cette énorme école. On était plus de 500 élèves. Et puis c'était vraiment au niveau humain aussi des grandes rencontres, parce que ça attire des gens de toute la planète. Donc on apprend aussi à parler un peu anglais, et puis surtout musique. Donc voilà, une expérience inoubliable.
Et puis la manière d'enseigner est très différente là-bas, ou pas forcément?
Alors finalement, pas tellement, hein, parce que ça reste des musiciens qui doivent aussi donner des cours pour vivre, hein, parce qu'on croit aussi que les États-Unis, on perce et on arrive à quelque chose, mais il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, puis beaucoup, beaucoup qui doivent soit avoir des petits boulots à côté ou de l'enseignement. Donc ça restait un petit peu quand même semblable à ce qu'on avait connu ici en Suisse.
Vous êtes un couple à la vie et à la scène, comme on dit. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation?
Alors, moi, je vois beaucoup d'avantages, donc on se supporte encore. En fait, on est sous le même toit, donc on peut répéter quand on veut, quand on est les deux disponibles, parce qu'on a aussi des boulots à côté. On peut discuter de ce qui va pas, parce que peut-être que tu vas en parler plus tard, mais on collabore aussi sur les arrangements et sur voilà. Donc moi je travaille parfois, je lui fais entendre, il est là, si t'as 5 minutes tu peux pas juste aller écouter ce que j'ai fait cet après-midi, enfin voilà. Ensuite, c'est vrai qu'avant nous on faisait des créations, on faisait des demandes de subventions à l'État, enfin bref, c'est la loterie remonte, c'est tout pour tenir une comptabilité. Ramener des tickets, faire un budget avant de demander l'argent. Après, on ne sait pas si on va l'avoir, pas l'avoir. Alors, on ne sait pas si on peut payer d'autres musiciens pour venir jouer avec nous. Après, il faut vraiment avoir des budgets pour ça. Il faut trouver une salle, il faut trouver des concerts. Parce qu'avant qu'on ait des concerts, ils ne nous donnent pas l'argent. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, il y a beaucoup de monde qui le font, mais moi, ça m'a... J'ai plus envie de le faire parce que c'est trop de temps par rapport à la musique. Je trouvais que c'était un gros investissement de tenir toute cette comptabilité. Et le fait qu'on soit collés d'eux, finalement, si un jour on n'est pas payé, tant pis. Vu que on a un autre travail à côté, on se dit qu'on y va quand même, c'est pour le plaisir, c'est beaucoup moins lourd. Parce que sinon, c'est une mini-entreprise, en fait, quoi. Voilà, ça, moi, je trouvais que c'était lourd, pesant. Alors ça, voilà, du coup, on n'est plus que les deux, donc c'est un peu plus léger. Alors, bien sûr, après, on n'est plus que les deux, donc ça restreint beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas de batteur, on n'a pas de... Enfin, moi, j'essaye de jouer un tout petit peu de ukulélé basse pour amener quand même quelque chose d'harmonique. Et puis, donc, on a tout dû changer les arrangements de nos morceaux pour pouvoir les faire à deux. Alors ça a été beaucoup de travail, surtout pour Alain.
Alain, votre vision des choses?
Alors, c'est vrai que c'est très pratique d'être à deux et puis justement de bénéficier de cette liberté et puis de ce temps supplémentaire. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on répétait avec des musiciens, ils avaient tous plein de projets, puis ils étaient disponibles, il fallait sortir l'agenda, puis trouver des dates pour déjà ne serait-ce que répéter. Après, quand on allait des concerts, il fallait espérer qu'ils n'en aient pas d'autres avec d'autres projets. Donc voilà, c'était assez... c'est une bonne expérience, bien sûr, de jouer en groupe. On l'a fait pendant pas mal d'années. Puis après, on s'est rendu compte que devenir un petit peu maître de notre projet, c'est-à-dire un peu des artisans où on maîtrise tout, de la composition jusqu'à l'enregistrement, la promotion, et puis même les concerts où on a un petit système qui est autonome, où on a besoin que d'un gentil ingénieur du son qui accepte nos deux pistes stéréo, puis qui fait finalement que du volume. Pour nous, c'était aussi important de pouvoir présenter quelque chose on savait comment ça sonnait, puis on n'était pas dépendant des autres.
Donc vous arrivez à tout enregistrer à la maison, en fait.
Tout à fait.
Le matériel minimum qu'il faut pour pouvoir enregistrer.
Alors ça, c'est quelque chose que chaque musicien, tous les musiciens maintenant en studio, puis ils le font. parce qu'en plus il y a un coût, enfin voilà, une économie quand même d'argent aussi assez qui est quand même conséquente. Et puis comme je dis, on reste maître de notre projet, on sait exactement ce qu'on veut, où on veut, comment on veut.
Très bien. Votre dernier album date maintenant d'il y a quelques années. Parlez-nous rapidement de ce dernier opus.
Moi, j'aime beaucoup composer. Alors, j'ai plein de bouts de morceaux qui traînent dans un ordinateur, mais plein, j'en ai beaucoup. Je pêche beaucoup plus sur les textes. Et puis, quand je compose, je fais un peu une espèce de yogourt, mais plutôt anglais. Donc du coup, après, quand je veux essayer de chanter en français, c'est difficile parce qu'il n'y a pas les accents au même endroit. Donc il faut que... Parfois, je décide tout à coup de dire, bah, ce morceau, finalement, je vais le faire en français. Et puis, pour revenir à au dernier album, c'est que donc, j'ai plein de morceaux qui traînent. Puis des fois, je dis à Alain, bon, écoute, j'ai fait une sélection de 20 morceaux. Va écouter au moins au niveau musical, qu'est-ce qui t'inspire ou voilà. Alors lui, des fois, il me dit, ben, on va garder cela, puis après, moi, je vais retravailler dessus pour mettre des textes.
Et puis, au niveau paroles, vous avez déjà demandé à quelqu'un d'autre d'écrire les...
Oui, j'ai une copine, Elena Lucarini, qui m'a écrit le texte. Et puis, j'ai demandé dernièrement à Pascal Rinaldi, parce qu'il me dit toujours qu'il aime assez ce qu'on fait, mais je le laisse complètement libre. Hein. Je ne sais pas du tout, je lui dis, si ça t'inspire, voilà, peut-être qu'un jour, je recevrai un texte de Pascal Rinaldi, on verra.
Alain, est-ce que des fois ça vous démange de composer
Alors, je sais pas quelque chose que j'ai fait de façon naturelle, c'est devenu un peu plus tard. Bah, une fois, c'était aussi dû au fait de maîtriser l'enregistrement. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'informatique musicale et un peu à maîtriser les bases, à ce moment-là, j'ai pu justement commencer à faire des espèces de petits montages de pistes, donc en fait des bribes de compos. C'est ce que j'ai fait justement sur ce dernier album, dont on a parlé avant, et où c'est la première fois qu'on a décidé d'essayer de le faire un peu nous-mêmes à la maison. On a collaboré avec un studio, mais la plupart des prises de son ont été faites à la maison.
Mais t'as composé Rainbow cette année.
Ah oui, alors ça m'arrive quand même de proposer finalement des idées, c'est ça en fait. Et puis si Valérie les apprécie, puis qu'elle me dit « bon, ben, alors il y a quelque chose à faire », à ce moment-là je creuse. Mais c'est vrai que je suis plutôt je me considère plus comme un instrumentiste et puis un arrangeur aussi. Parce que voilà, j'entends des harmonies, que peut-être que ça c'est mes influences jazz qui font que j'ai ces idées qui viennent et puis qui peuvent apporter quelque chose à un projet.
Valérie, quelles sont pour les textes vos sources d'inspiration?
Bah, c'est la vie de tous les jours, c'est mon parcours, c'est en ce moment, ben, justement ce fameux morceau Rainbow, je parle un peu de la question d'écologie. Je n'ai pas sorti encore un morceau qui s'appelle « Je rêve de pluie », c'était pendant la canicule. Ça peut être très vaste, quoi.
On va maintenant parler du côté live, des concerts. Vous avez donné de nombreux concerts avec Hirsute, par exemple au Montreux Jazz Café, au Paléo Festival de Nyon, à Expo 02 à Yverdon, au Caprice Festival à Crans-Montana. Quel serait le plus beau souvenir de concert que vous avez d'abord, Valérie?
Alors, moi, en fait, j'aime mieux les concerts un peu plus intimistes. J'ai un super souvenir, justement, à l'Atelier 9 à Beauvernier. C'était dans une toute petite salle où on était 30 personnes, où c'était vraiment... Mais le public, il est au bord de tes genoux, là. Et puis, ça m'a vraiment touchée parce qu'on a l'impression de vraiment réussir à prendre les gens avec nous parce qu'il n'y a pas de distance. À Beauvernier, c'était dans une toute petite salle où on était 30 personnes, où c'était vraiment, mais le public, il est au bord de tes genoux, là. Et puis, ça m'a vraiment touchée parce qu'on a l'impression de vraiment réussir à prendre les gens avec nous parce qu'il n'y a pas de distance. C'est comme si on était dans leur maison, quoi, dans leur salon. Puis ça, j'adore, quoi.
Très bien, Alain ?
Alors bon, moi j'ai effectivement les petits concerts intimistes, j'ai apprécié aussi, mais le fait d'avoir quand même joué sur ces grandes scènes, c'était toujours des expériences assez impressionnantes aussi, parce qu'on débarque dans une infrastructure qui est gigantesque, avec des gens qui sont tous professionnels, on croise des artistes aussi en tournée, donc j'ai trouvé quand même assez intéressant toutes ces rencontres, et puis voilà, c'est vrai que les grandes scènes, les grands festivals, bah, il y a cette immensité de la scène où on n'a pas l'habitude, parce qu'on est un petit groupe, et puis on joue toujours sur des espaces quand même assez restreints, puis qu'on tout d'un coup on a un plateau énorme, et puis qu'on est trois ou quatre sur cet énorme plateau. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis le Paléo, moi j'ai un souvenir plutôt d'après-concert, un peu dans ces backstage, et puis après on peut aller dans une petite terrasse privée pour voir le concert de Jamiroquai, et puis voilà, ça reste des souvenirs mythiques.
Et puis un concert particulier, bizarre, ou qui a carrément mal tourné.
Alors ceux qui ont moins tourné, je pense qu'il y en a pas mal, mais nous, en tout cas moi j'ai eu deux anecdotes. C'était à la Maison de la Musique à Martigny. On avait engagé on avait fait une création de nouveau et on avait engagé quelqu'un pour nous faire des lights. Puis je lui ai donné carte blanche.
Donc des lumières, donc.
Oui, des lumières. Je lui ai donné carte blanche et puis je lui ai dit, écoute, je te fais entièrement confiance. On se voit à 6 heures. C'était à l'après-midi la salle. Tu te débrouilles comme tu veux. On se voit à 6 heures ce soir pour manger ensemble et puis avant le concert. Et puis tout à coup, on arrive à 6 heures et puis... Il m'annonce qu'il avait envoyé des fumigènes l'après-midi dans la salle, et les pompiers qui ont débarqué avec la police cantonale. Et puis ça a été toute une affaire parce que pour savoir qui c'est qui avait, il avait déclenché l'alarme incendie, quoi.
Vous avez quand même pu faire le concert.
Oui, mais alors il a dû vite installer des tissus, d'autres choses, parce qu'on ne pouvait pas utiliser les fumigènes. Mais on a plusieurs de ces anecdotes.
Ouais, un souvenir du Caprice aussi, où ils avaient eu la bonne idée d'installer une scène à l'extérieur et puis il faisait un froid polaire, je pense.
Donc, juste préciser, Caprice, c'est un festival en plein air à Cramontana sur les pièces de ski, si vous faire.
Ouais, alors ils ont plusieurs scènes. Ils ont une scène à l'intérieur, là, dans un.
Ouais, ça, c'est le grand festival.
Le grand festival.
Et vous, c'était à l'extérieur, ouais.
Nous, c'était un espèce de petit concours qu'ils avaient mis sur pied. Donc. On avait joué là, puis c'est vrai que quand il fait je sais pas comment il faisait, en dessous de zéro, oui. Mais c'était assez terrible. Donc, entre chaque morceau, il faut vite aller vers la chaufferette, essayer de se réchauffer un peu les mains. Pour chanter, c'est pas évident. Enfin bref, quoi, c'était assez épique. Mais alors, par contre, un super public, des jeux, vraiment une super ambiance. Puis on avait gagné ce petit concours. Ce qui nous a permis d'aller enregistrer à Saint-Gaël, dans un studio perdu dans le Toggenburg. chez un gars qui avait fait fortune dans le saumon, et puis sa passion c'était la musique, donc il avait un studio énorme dans sa ferme, ouais. Et on avait pu enregistrer avec nos deux acolytes de l'époque quelques morceaux, donc voilà.
Ouais. Une autre anecdote encore?
Oui, alors dans ceux qui se sont mal passés, c'est... il va m'en vouloir, mais on jouait une fois un concert, c'était nouveau à Cramontana, si je ne me trompe pas, et notre batteur m'annonce en plein milieu du concert, entre deux morceaux, qu'il va arrêter le groupe, parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il y avait un truc qui n'avait pas, puis il a dit j'arrête le groupe, alors qu'on était entre deux morceaux. Après, on avait notre bassiste qui était tout perturbé, on n'arrivait plus à jouer, enfin, c'était vraiment une ambiance. Enfin voilà, des fois, on a des anecdotes comme ça, galates, quoi, qu'il faut continuer quand même.
Valérie, vous avez participé à l'enregistrement d'un album de Jacques Laguerre, un autre chanteur valaisan bien connu, qui a fait surtout des chansons pour enfants. Je l'ai contacté pour savoir quel souvenir il avait de cet enregistrement, et il m'a dit qu'il trouvait que vous aviez une voix magnifique, avec beaucoup de douceur, et puis qu'il aimait vous voir chanter, car vous aviez une pétillance dans les yeux qui débordait dans votre voix. Donc un bel hommage, il m'a dit vraiment qu'il avait été enchanté. Vous, quel souvenir vous avez de cette collaboration ?
C'était une expérience aussi fantastique parce que c'était tout au départ que je chantais, enfin j'étais vraiment jeune. On avait un ami comme moi qui avait un studio justement à Chara. Mais chaque fois qu'il avait besoin de chœurs comme ça, il me disait ah, « tu veux pas venir faire les chœurs ?» Alors je venais très volontiers d'ailleurs, ça m'a fait une super expérience de studio. Après Jackie, c'est quelqu'un d'adorable, donc forcément oui. Il y a toujours tout qui va, il est content de tout, donc c'est très sympa. Et puis ça m'a justement fait l'expérience du studio. J'aime bien le studio en fait, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais moi j'aime bien.
Vous avez aussi été choriste, je crois, pour Laurence Revet, une chanteuse d'origine valaisanne. Et je crois que vous avez participé à un certain nombre de concerts avec elle. Quels souvenirs vous en gardez?
Je suis restée 3 ans en fait sur son projet. Elle est avant, avec elle, j'étais choriste d'un autre groupe qui s'appelait Eric Cube. C'est comme ça qu'on s'est connus.
D'accord.
On était les deux choristes pour Eric Cube. On a d'ailleurs aussi passé à... On a joué à Périgueux, on a joué aussi au Paléo Festival avec Eric. Puis avec Laurence aussi, j'ai passé au Paléo. Elle est passée au Paléo. Ce qui était hyper intéressant avec Laurence, c'est qu'en fait, elle n'avait pas du tout d'instrument harmonique. Donc, c'était uniquement les voix qui faisaient les accords. Donc, on était deux choristes et on devait chanter pour harmoniser le tout. Et elle se posait dessus. C'est hyper intéressant parce qu'il n'y avait pas de groupe qui faisait ça du tout à l'époque. Et puis, c'est hyper pointu parce qu'on n'a qu'un bassiste. Et puis un batteur qui tienne le truc, et sinon c'est que les voix qui tiennent tout. Et ben, y a intérêt à être juste, efficace, et puis c'était une super expérience.
Belle expérience, oui. On est en période de Covid toujours, donc ce qui veut dire que les concerts pour l'instant c'est impossible. Est-ce que pour vous, d'un côté c'est bien parce que vous composez un peu plus, ou... Comment vous voyez les choses?
Ben moi, ça me va assez, cette période un peu plus lente comme ça. Enfin, je pense bien sûr à tous ces artistes qui vivent de leur art. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on enseigne, donc voilà, on souffre pas directement du Covid au point de vue des revenus. Et puis, par contre, alors effectivement, c'est une période où on peut s'impliquer dans la création, plutôt dans la composition. Ouais, moi, ça me va bien. Et puis, j'aime bien aussi ces périodes de création. J'aime bien. Ouais.
Alain ?
Alors aussi, bah, c'est un rythme de travail qui nous permet effectivement de plus travailler en fait, ensemble. Et puis nous, finalement, ouais, c'est un peu de nouveau ce luxe dont Valérie a parlé avant. Le fait d'être pas dépendant justement de la scène pour assurer un revenu mensuel, ça nous permet aussi de choisir nos concerts. Et puis on a opté pour un petit peu moins de dates, mais justement dans des endroits où le public vient écouter. Parce que c'est vrai qu'on a, je trouve que depuis quelques années, les concerts sont devenus des lieux où les gens se rencontrent pour se voir et puis échanger quelque chose. Mais la musique, elle est, à mon sens, un peu secondaire. Mm-hmm. Donc on voit des fois des publics qui ne regardent pas nécessairement la scène et qui sont plus là pour boire un verre entre eux. Et puis ça, c'est vrai que moi, j'ai un peu de la peine avec ça. Donc je préfère jouer dans des endroits où vraiment les gens viennent s'asseoir et puis passer un moment avec nous, parce qu'on essaie de faire une musique qui porte au voyage. Donc il faut un petit peu se mettre dans un état d'esprit pour pouvoir apprécier. Ça a juste valeur. D'où ces petits concerts un peu intimistes. Effectivement, qu'on apprécie bien.
Il me reste à vous remercier et à souhaiter longue vie à Hirsute. Si on veut se renseigner un petit peu sur votre groupe, quel site internet allez voir?
Alors, on a un site internet, mais je ne suis pas sûre qu'il soit tellement à jour. Donc, c'est www.hirsute.ch. Sinon, je suis plus active sur Facebook. C'est aussi Hirsute. Où justement là il y a plutôt les dernières nouvelles, les derniers morceaux qu'on sort.
Des reprises aussi?
Oui, on fait de temps en temps des reprises, mais ça c'est pour nous faire plaisir à nous, c'est un morceau qu'on aime bien, mais la seule distinction, c'est qu'on essaie de jamais refaire une reprise qui ressemble à l'original. Oui. En fait, on essaie de réarranger à la Hirsute.
Ces réseaux sociaux, ça peut être aussi intéressant pour vous,
oui,
dans cette période de Covid, comme ça vous
quand même
donner des nouvelles
aux gens qui vous suivent. Puis on a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Hirsute Musique,
voilà,
où on met nos petites vidéos aussi, qu'on fait des petits montages maison, des répétitions.
Alors un grand merci et bonne suite.
Merci beaucoup.
Merci à vous.